Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Cédric. Est-ce que ça va bien?
Oui, ça va bien. Bonjour à tous.
Tu as fait une excellente présentation au Sécure sur la gestion d'incidents dans AWS. Tu as pris un angle qui, pour moi, est très intéressant puisque tu es arrivé avec un cas fictif, mais simulant un peu une situation réelle qui probablement est quand même pas très loin de la réalité pour probablement plusieurs cas vécus où il est arrivé, où des gens sont arrivés, puis peut-être tu as justement partagé plusieurs lignes de commande ou stratégies justement pour nous amener à améliorer la façon de gérer un incident en AWS, parce que, puis je reviens toujours parce que tu reviens souvent avec ça aussi, j'aime ça, ce n'est pas qu'un ordinateur ailleurs. Et la réalité, c'est justement, c'est pas un ordinateur ailleurs. Puis la philosophie de gestion d'incidents en info nuagique est très différente. Puis c'était une belle façon, à mon avis, d'aborder cette différence de philosophie-là en gestion d'incidents dans AWS. Fait que je vais te laisser un peu démarrer là-dessus, puis on va jaser un peu sur ça.
Ouais, bah c'est vrai que ça venait faire écho à la remarque qu'on me pose souvent qui est c'est quoi la différence un incident dans. On-premise versus dans le cloud, ça reste un ordinateur, tu vois, qui est vulnérable éventuellement et puis qui se fait attaquer. Et la réalité, c'est que oui, effectivement, dans l'info nuagique, nous avons des ordinateurs qui peuvent potentiellement être vulnérables et se faire attaquer. Ça se voit régulièrement. Mais on a également une autre couche d'attaque, une autre surface d'attaque. En addition de celle qui est exposée par vos différents serveurs dans l'info nuagique, il y a la surface d'attaque de votre environnement cloud proprement dit, qui expose des API, qui expose des objets que vous avez volontairement ou involontairement mal configurés. C'est autant d'objets qui peuvent être entre guillemets attaqués, de la donnée qui peut être exfiltrée. On peut même faire de la persistance au sein de l'info nuagique en aucune manière attaquer les serveurs. C'est-à-dire on peut faire de la persistance, on a des scénarios de persistance dans l'info nuagique, non pas via des vulnérabilités dans des serveurs, mais via des vulnérabilités dans votre environnement cloud proprement dit, donc dans la configuration cloud, qui va vous permettre de déposer du code malveillant dans ce qu'on appelle des fonctions serverless, comme Lambda. Donc on a des fonctions, des méthodes comme ça documentées, qui sont très efficaces. Donc ça, c'est sûr que ça vient en addition de vos vulnérabilités sur vos serveurs, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Ça fait du lad job en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de s'en prémunir, il y a des bonnes pratiques, il y a des recommandations que vous pouvez utiliser.
Effectivement, puis c'est ça, puis j'aime bien que tu soulignes cet élément-là, parce qu'on est dans un univers de configuration. On parlera plus de vulnérabilité sur des serveurs ou généralement des vulnérabilités sur des services, parce que ceux-ci sont plutôt rares. Il y en a eu quelques-unes des vulnérabilités dans les différents clouds, mais c'est pas la norme, c'est vraiment l'ultra-exception. Et c'est probablement plus nous, comme utilisateurs et consommateurs de ces services-là, qui reposent sur des vulnérabilités. Puis justement, tu avais mentionné une fois, ouais, les firewalls, ils bloquent les affaires. Oui, mais dans ce cas-ci, on est tous dans des API. Fait que si nos API ne sont pas correctement protégés ou ils ont justement un frontal qui est efficace devant, on se trouve être exposé. On expose des éléments IP aussi. Tu avais montré des commandes où, par erreur, l'individu avait exposé le port 22, par exemple, sur les internets. De voir ça rapidement, de voir comment ça fait qu'on est dans un univers très différent, beaucoup plus fluide qu'on est habitué avec un serveur qu'on va sécuriser et que la surface d'attaque se limite à ce serveur-là. Mais dans ce cas-ci, la surface d'attaque est à l'ensemble de notre exposition infonuagique qui est franchement beaucoup plus grande.
Ouais, et puis c'est important de le savoir, de connaître ce risque, parce que c'est dommage de voir des entreprises qui mettent beaucoup d'efforts justement à sécuriser leurs serveurs, à mettre en place même parfois des landing zones, des choses quand même vraiment efficaces. Donc avec des firewalls qui viennent filtrer le trafic entrant. Donc là, on se dit, on est bon, là on est bien, là j'expose aucun port sur Internet. Ou alors j'ai des WAF en face, j'ai du firewall avec de l'inspection de trafic. Je suis vraiment sécure. Donc là, le problème, c'est que ça dégage un faux sentiment de sécurité, parce que si à côté de ça, vous n'avez aucune surveillance, par exemple, de vos identités info nuagiques, Ben effectivement, il faut se rappeler que dans les cinq critères d'un cloud provider, selon le CSA, ben, il y a l'accessibilité qui est accessible depuis n'importe où sur la planète. Et ça, c'est ces fameuses API qui sont accessibles de n'importe où. Elles ne sont pas filtrées. Donc, si l'identité, votre identité a été affûtée, a été piratée d'une façon ou d'une autre, ben, n'importe quel attaquant de n'importe quel pays du monde va se connecter à l'API AWS, à l'API Azure, et puis va pouvoir se connecter à la console de gestion. De cette console de gestion, elle va pouvoir effectuer un ensemble de mesures comme ça, faire de la persistance, faire de l'exfiltration de données. Il y aura une panoplie de mesures qui va lui être offerte. Donc, non, effectivement, c'est dommage d'avoir ce faux sentiment de sécurité en se focalisant uniquement sur ses serveurs et puis en oubliant tout le reste, toute la zone d'accueil, là, toute votre fondation infonuagique.
Ouais, d'ailleurs, la zone d'accueil est probablement un des éléments primordial dans l'installation et le déploiement de l'info nuagique. Puis tu en fais justement référence dans tes conseils à la fin de la présentation, parce que c'est là où vient asseoir des principes de base quand même, parce que c'est pas juste. Parce que dans la tête de plusieurs personnes, la landing zone, c'est juste genre une DMZ, puis ainsi de suite. Quand dans la réalité, la landing zone est la configuration de base de l'ensemble des fonctions pures info nuagiques qui servent justement à accueillir notre payload, pas de type on-prem, mais qui est vraiment dans un contexte où les fonctions, tu parlais de fonctions Lambda, par exemple, tantôt, mais qui sont encadrées, les buckets S3, tout ce qui va autour doit être encadré par la landing zone.
Ouais, c'est ultra important. Je pense que c'est un concept qui est encore beaucoup trop méconnu, malheureusement. Donc là, je commence un combat pour le populariser. Je pense qu'il faut vraiment en parler beaucoup plus. En plus, l'analogie, elle est ultra simple. La landing zone, c'est les plans de votre maison. Quand vous construisez une maison, vous avez beau être un super bricoleur, en général, vous ne commencez pas avec un marteau et direct et avec clous. En général, vous prenez le temps de vous asseoir et puis de dessiner les plans et de vérifier comment vous allez sécuriser la fondation pour ensuite pouvoir construire en hauteur. La landing zone, c'est exactement ça. Vous commencez par faire un plan de comment vous allez sécuriser votre environnement, quels éléments natifs du fournisseur infonuagique vous allez consommer, de quelle façon. Et ensuite, une fois que vous avez cette landing zone, vous allez déplacer vos charges de travail dans cet environnement qui est sécuritaire par défaut. Ça ne veut pas dire que tout va être sécuritaire, va rester sécuritaire dans le temps, mais au moins votre fondation, elle est efficace, elle est propre, elle est élastique. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, vraiment multiplier les charges de travail sans avoir de goulot d'étranglement au niveau du réseau, sans avoir de coin mort en termes de sécurité, etc. Vous avez une certaine assurance, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que pour un CISO aujourd'hui, c'est quelque chose qui est appréciable d'avoir une certaine garantie que son info nuagique suit des bonnes pratiques. Or, moi, je rencontre encore beaucoup de clients qui, malheureusement, leurs CISO n'ont pas tant cette vision, sont obligés de se reposer sur leurs équipes en leur faisant confiance, mais ne peuvent pas se rassurer avec la confirmation qu'il y a eu un blueprint, qu'il y a eu des plans là, qui ont été pas certifiés, mais qui ont été recommandés, approuvés par le fournisseur infonuagique. Et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est pas quelque chose en plus que vous êtes obligé d'avoir beaucoup de charges de travail déjà dans l'info nuagique pour mettre en place. Au contraire, c'est plutôt dès le début de votre journée to the cloud, ou plutôt, c'est de déployer cette landing zone. Et puis ensuite, une fois que c'est en place, ça va vivre avec l'évolution de votre consommation pendant les années à venir.
Tout à fait. Puis de toute façon, les deux fournisseurs dans lesquels on parle le plus, c'est-à-dire Azure et AWS, les deux ont déjà des gabarits préfaits avec des scripts préfaits qui sont justement adaptés. Puis c'est bien, j'aime bien le fait de rassurer, comme tu mentionnes, le CISO. Dans le cas, moi, je suis plus habitué avec les volets AWS dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont des script adapté pour chacun des secteurs. Le gouvernement, les éléments américains, même le gouvernement canadien a développé ses propres critères qui sont pris en charge par AWS. Donc, on est capable de déployer des infrastructures sans aucune modification qui atteignent les critères minimaux exigés par soit le gouvernement fédéral au Canada, le programme FedRAMP aux États-Unis ou la santé, et ainsi de suite. Fait qu'on est déjà capable d'avoir une base uniforme dans laquelle on atteint ce qui est dans notre propre à notre secteur d'activité, justement, qu'on est capable d'établir, de bâtir sur du solide aussi. Puis rendu là, ben, nos hauts dirigeants aiment ça, savoir qu'on s'est appuyé sur des éléments. Ils dorment mieux, généralement, la nuit. Fait qu'on, quand ils savent qu'on s'est appuyé, c'est juste pas qu'ils font pas une confiance à leurs employés, mais en ayant l'assurance que les grands joueurs du marché se sont penchés sur la question, est déjà un élément beaucoup plus rassurant.
Oui, je pense clairement. Et puis, c'est adaptable. Évidemment, une landing zone, c'est pas quelque chose. C'est pas du un pour un. On a des. Bon, à part vraiment dans des contextes particuliers, là, très. À des niveaux de sécurité très élevés. Mais même là, je vous dirais, il y a toujours des petites particularités. On va pouvoir activer tel service ou tel autre service ou voir une architecture réseau légèrement différente. Donc, ça s'adapte parfaitement bien, très, très bien aux besoins de chaque entreprise. Et chaque entreprise a des besoins spécifiques. Après, vous avez des templates génériques là, qui sont plus adaptés à des contextes publics, à des contextes privés, à des contextes de petites ou de grandes entreprises. Tout est fait sur mesure.
Ben, c'est le point de départ, justement. Ça amène certains éléments essentiels, dont la journalisation, par exemple, dont la segmentation, dont ces éléments-là amènent. Dans le cas d'AWS, les Control Towers sont déployés justement pour être capable de cette gestion centralisée qui est incluse et très commode avec AWS d'ailleurs, qui est un énorme facilitant à bien des égards d'utiliser ces éléments-là. L'autre aspect aussi que tu avais abordé, c'est tout le niveau du Blast Radius avec tout le volet IAM, tout ce volet de contrôle de l'identité. En AWS, le contrôle, la gestion de l'identité n'est pas ce qu'on serait habitué avec Azure. C'est deux sphères. Et quand on peut en parler d'IAM, on peut se parler d'abonnement du côté Azure pour que les gens puissent distinguer. Puis justement, cet élément-là est très important d'utiliser pour segmenter correctement une partie des informations.
Ouais, ben dans tous les cas, Azure et AWS, c'est sûr que l'identité, moi, c'est ce que je définis comme le super pouvoir qui traverse les firewalls, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, on a malheureusement tendance à trop entendre parler de comme première barrière de protection dans l'info nuagique des firewalls. Alors moi, j'aime bien les firewalls, c'est parfait, hein, il en faut et on en a besoin, là. Mais clairement, c'est pas la première mesure de protection dans l'info nuagique. Pourquoi ? Parce que en fait, avec une identité, vous contournez le firewall. On n'est plus cantonné comme on-premise à la couche réseau. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. L'attaquant, il passe au-dessus de la couche réseau. Il est au niveau de la couche applicative via les API pour aller rebondir sur les différents objets dans votre environnement. Donc, votre firewall, il va pas vous aider là pour ça. Là. Par contre, votre firewall va vous protéger contre les attaques réseau. Ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème, c'est intéressant. Mais pour les problèmes de configuration et puis les risques liés à l'identité, ben, ça vous prend d'autres générations d'outils, d'autres types d'outils. Ça vous prend aussi, évidemment, l'application des bonnes pratiques. Hein. On jette pas... le bébé avec l'eau du bain là, le juste assez, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé avec l'info nuagique, le principe du juste assez. Donc on va réutiliser ce principe et on va le mettre en place dans l'info nuagique. On va peut-être chercher à être plus efficace, par exemple, dans le juste assez, parce que moi personnellement, en tout cas de mon expérience, je constate que c'est un principe qui est pas toujours bien mis en place ou bien renforcer. Là, on n'a pas tant d'outils d'ailleurs qui nous aident dans un environnement sur site à vérifier qu'on a du juste assez en place. Donc, dans l'info nuagique, on va avoir des outils qui vont nous aider pour ça. Ça s'appelle les CIEM. On a même des solutions natives. Je pense, si on parle d'AWS, YAM Access Analyzer. Je suis pas mal sûr que Microsoft nous donne aussi des solutions pour nous aider là-dedans. Avantage en plus avec Microsoft, par exemple, avec PIM de Azure AD, on va pouvoir activer les authentifications à haut privilège sur demande et de façon journalisée. Donc c'est, on a vraiment des solutions quand même qui sont modernes là, qui sont dans ces environnements, qui nous aident. Il faut les utiliser, il faut les consommer et il faut se convaincre que l'identité, c'était important avant. Ça va l'être beaucoup plus désormais avec l'info nuage. L'identité, c'est une priorité. Si vous ne gérez pas correctement votre identité, vous pourrez mettre tous les firewalls du monde dans votre environnement. Ça n'empêchera pas que vous vous ferez attaquer et que vous aurez des problèmes d'exfiltration de données. C'est certain.
Ouais, ben c'est ça. Puis c'est d'autant plus la gravité de la situation, le fait que les fuites de données, les fuites de mots de passe, ces éléments-là ramènent justement le fait que nos identités valent la peine. Là, tu parlais de PIM chez Azure, puis c'est un élément essentiel. La dorsale Azure AD est quand même très robuste, là, c'est dans, ouais, globalement. Puis elle est probablement Identity as a Service, une des meilleures sur le marché à l'heure actuelle. Justement, puis tu le mentionnes dans ta conférence. Utilisez cette structure-là. Si vous l'avez, utilisez-la pour vous brancher dans AWS parce que vous allez avoir un gain énorme. Là.
Bah oui, ouais, ça, enfin pour moi ça fait pas de sens ça fait pas de sens de multiplier les dépôts d'identité. Je veux dire, évidemment là on va aller au plus simple. On n'a pas assez d'équipe et puis de moyens pour multiplier les dépôts d'identité. Donc l'unicité est importante. Et puis l'avantage c'est qu'avec Azure AD, bah vous avez une foule d'options qui vont venir vous aider, le conditionnel access, le MFA, donc vous avez un certain nombre comme ça de services qui viennent vraiment vous renforcer votre identité. L'intégration dans AWS est extrêmement simple, il n'y a rien de plus facile que d'intégrer un Azure AD dans AWS. Donc voilà, donc toutes les, là, je veux dire, c'est les recettes du succès, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à réfléchir, c'est un no-brainer pour moi, là, on y va, on connecte, on l'utilise, et puis... Et puis après, par contre, les permissions, c'est dans AWS que vous allez gérer les permissions associées à votre identité Azure AD. Donc là, par contre, dans AWS, vous allez quand même avoir un travail de juste assez, là, d'éviter de donner des... Et puis là, ça va à l'encontre un peu d'ailleurs des recommandations parfois des fournisseurs. Donc là, je m'explique. Les fournisseurs vous mettent à disposition ce qu'on appelle des policies, des managed policies, donc des politiques d'accès géré, c'est pas le bon... Des stratégies, ouais, ils traduisent ça par stratégie en français. Des stratégies d'accès, donc c'est un ensemble de permissions, des regroupements de permissions. Donc ça, c'est vraiment fait pour vous faciliter la vie. Par exemple, on a évidemment une managed policy qui s'appelle administrator, qui vous donne tous les accès administrateurs dans l'ensemble des services. Vous avez aussi une policy qui s'appelle power user, par exemple, dans AWS, qui est très connue, qui vous donne en fait pas mal des accès administrateurs, sauf sur l'identité. Vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas toucher à l'identité. Voilà. Ça, c'est fait pour faciliter la vie du consommateur qui veut avoir rapidement pouvoir travailler, puis sans qu'on soit trop embêté avec les accès. C'est pas mal pour commencer, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas mal pour commencer éventuellement faire votre première expérience. Et si vous commencez à être sérieux et à déployer beaucoup de quantité une belle quantité de charges de travail, clairement, il faut éviter ce genre de politique gérée. Moi, je recommande plutôt d'aller sur des politiques faites sur mesure, avec des permissions qui sont vraiment granulaires. Alors oui, c'est du travail. Et puis, c'est une réalité. L'identité dans l'info nuagique, ça demande quand même du savoir-faire et du manpower, là. Mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous protéger contre des exfiltrations, contre des potentiellement compromissions des services infonuagiques eux-mêmes. Parce que les services infonuagiques eux-mêmes utilisent de l'identité qui est définie dans votre compte. Il y a eu l'exemple, une vulnérabilité qui touchait Glu, un service qui s'appelle Glu dans AWS, qui est un service d'ETL, de transformation de données. Ce service, pour pouvoir s'activer et consommer vos données dans votre compte AWS, consommer un rôle que vous deviez définir dans votre compte AWS. Par défaut, le rôle proposé est un rôle administrateur bucket S3 sur l'ensemble de vos buckets. Ce qui est pratique, c'est-à-dire que vous associez en fait les permissions avec ce rôle, et puis le service Glu pouvait donc transformer de la donnée vers ou depuis l'ensemble de vos buckets S3. Mais aviez-vous besoin d'ouvrir l'accès à tous vos buckets S3? Pas forcément. Peut-être qu'il y en avait un ou deux seulement des buckets S3 que vous vouliez utiliser avec Glu. Donc à ce moment-là, bah, faites une policy sur mesure, le service va fonctionner tout aussi bien. Et puis, vous avez l'assurance que, comme dans le cas présent, il y avait eu une vulnérabilité avec le service GLU, et ben, a priori, elle n'a pas été exploitée, donc tant mieux. Mais si jamais elle devait être exploitée, ça va limiter en tout cas le blast radius, encore une fois, à seulement une quantité limitée de bucket test.
Ouais, on revient toujours à ça, puis la réflexion, elle est toujours de limiter. Puis c'est pour ça que le Zero Trust est d'autant plus important en info nuagique, justement, parce que on essaie de limiter la portée, parce qu'on a des services qui maintenant se consomment par des API, pas par des ports réseau, pas par les vieilles stratégies. On est vraiment dans des appels REST classiques qu'on peut faire ou encore en ligne de commande, tout ça. Puis dès lors, dès qu'on a une identité, on est capable d'interpeller le service. Tu parlais du service plus dans ce cas-ci, mais lui, s'il accède à l'ensemble des buckets S3, ben essentiellement, toutes nos données sont visibles si je réussis à mettre la main sur ce service glue-là à ce moment-là. Donc, c'est démesuré, mais les gens ne mesurent pas. Puis c'est ça qui est étonnant encore. De nos jours, en 2023, on ne mesure pas à quel point les conséquences du surdroit, de trop donner d'accès ou trop donner des choses au service.
Au service, aux users ou parfois même à des partenaires. Il y a des partenaires qui demandent des accès dans vos comptes et qui vous demandent des droits qui ne font pas de bon sens. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup d'attention et un certain travail pour maîtriser l'ensemble de ces permissions. Il y a des statistiques incroyables, hein, d'ailleurs, sur le nombre de permissions managées qui ne sont non utilisées dans les environnements cloud. Je ne sais plus dans quel rapport, je pense que c'est peut-être Palo Alto qui avait fait Prisma Cloud, qui avait fait un rapport là-dessus qui était assez fantastique. Là. C'est incroyable, hein, le nombre de permissions non utilisées dans l'info nuagique. La bonne nouvelle, par contre, c'est que pour nous aider justement à gérer ces permissions de façon efficace, ben on a l'automatisation, tu en as parlé. Effectivement, on a la chance de pouvoir utiliser de la ligne de commande, mais surtout plus que ça, du langage, des langages de programmation pour coder notre identité. Et ça a énormément de valeur parce que justement, dans un contexte où on manque de moyens dans notre équipe, dans nos équipes sécurité, moi, je connais personne qui est venu me voir. Je connais aucun client qui est venu me voir en me disant « Ah, mais moi, j'ai trop de gens dans mon équipe sécurité. Là, je suis en over-capacité. Là. » Je veux dire, franchement, on s'embête. Nous, on fait barbecue tous les jeudis après-midi parce qu'on s'embête dans la sécurité. Non, ça n'existe pas. Là. Je veux dire, au Québec, on le sait, on est tous en sous-capacité. Et puis, pour nous aider à gérer ces identités, utilisons l'automatisation, codons nos identités avec des langages. Au début, il y a une courbe, d'apprentissage qui est douloureuse. On ne va pas se le cacher, il faut mettre en place des pipelines, il faut mettre en place la connaissance, former les équipes, c'est un peu douloureux au début. Mais alors, je peux vous assurer que sur le long terme, c'est incroyable parce qu'il y a un truc que j'ai appris très jeune en tant qu'apprenti développeur, c'est que le copier-coller, ça fonctionne numéro un. Et puis, le copier-coller, il va vous aider énormément parce que vous allez réutiliser des bouts de code, vous allez avoir des bouts de code documentés, fonctionnels, pour tous les types de situations. Et puis, un nouveau consultant, un nouvel employé qui arrive, lui attribuer des droits, c'est pas plus compliqué que de faire des copier-coller, des bons blocs qui vont bien ou d'utiliser des modules déjà préprogrammés. C'est ultra simple, c'est ultra rapide. Et surtout, c'est répétable, vérifiable, vous n'avez pas d'erreur. C'est pas « j'ai fait des trucs en console, je ne sais pas trop quoi, et puis je suis incapable de le reproduire ». Non, là, vous avez la traçabilité, et puis aussi dans un contexte, il faut quand même y penser, dans un contexte de turnover, de marché très agressif, si votre spécialiste il vous quitte, vous avez tout ce qui est fait, là, et persiste, reste dans l'entreprise, est codé, disponible, pour le successeur qui peut reprendre le travail exactement là où il en était. Ça a une valeur, je pense, aujourd'hui, on le sous-estime, on n'y pense pas assez, mais pour l'entreprise, c'est stratégique. Ça a vraiment une valeur stratégique, selon moi.
Énormément. De toute façon, moi, je préfère même aller plus loin que juste copier-coller. C'est de faire des scripts qui s'appuient sur une base de données ou un élément similaire là, qui automatise ce genre de choses-là. J'adore énormément ce principe-là. Je fais juste saisir mes données dans une... Justement, dans un fichier plat, parce que je n'ai pas assez de données pour justifier de monter une base de données pour ça, genre un JSON ou un YAML là, qui est là, puis qui me sert de pseudo-base de données, puis mon script, il roule à toutes les heures, puis il fait juste réactualiser par rapport au contenu de la base de données en ajoutant ou en retirant ce qui a été changé en base de données. Donc, mon effort personnel, elle est limité à m'entretenir que je ne fasse pas d'erreur dans la base de données et que le restant tout se mécanise. Mais bon, bref, c'est des... Là, on descend dans l'énorme détail, mais oui, le plus on peut se sauver du travail qu'on répète régulièrement, de toute façon, je pense que c'est dans une conversation avec des gens de chez Google, par exemple, qui disaient que les analystes du SOC chez Google, leur façon d'opérer, c'est que le matin, répondent aux alertes de la veille et l'après-midi, ils codent pour ne plus avoir à répondre aux alertes qui ont répondu le matin. Ben, c'est systématique comme ça. Fait que les autres,
c'est exactement ce que je recommande. C'est marrant, je ne savais pas d'ailleurs cette anecdote de Google, mais c'est exactement ce que je recommande. L'avantage dans l'info nuagique, c'est que les alertes que vous recevez, donc là, si on parle d'AWS dans Security Hub, ça veut dire que c'est des contrôles de détection qui vous ont alerté, qui ont permis de lever une alerte. C'est bien, il faut avoir des contrôles de détection. Mais à la seconde où vous avez une alerte, vous devriez systématiquement déclencher la mise en place d'un contrôle de prévention. Sinon, vous allez continuer à être floudé à longueur de journée et puis vous n'y arrivez pas, quoi. C'est comme les SIM, un peu, si on veut faire une analogie. C'est bien d'avoir un SIM, mais si vous ne faites pas ce travail d'entretien continu pour lutter contre les faux positifs, bah, vous perdez la valeur de votre SIM, en fait, à la fin, parce que vous en avez trop et puis vous ne le gérez pas vraiment. L'info nuagique, vous avez la possibilité quasiment pour tout de mettre des contrôles de prévention, comme tout est dépendant d'une API, bah, c'est ça la magie, vous pouvez à peu près tout coder comme scénario, soit de prévention, soit de réaction automatique. Il y a aussi des beaux scénarios de réaction automatisée qui vont permettre de, par exemple, quelqu'un qui crée un bucket S3 public par erreur, automatiquement vérifier le tag, si le tag n'est pas correct, transformer ce bucket et le repasser en privé, envoyer un petit courriel, générer un incident dans Jira, puis hop, c'est fini et personne n'a touché à rien du tout, ça a été full automatisé. Ça, c'est parfait, quoi. C'est ça qu'on veut voir.
Et t'as utilisé l'anecdote justement de ce type-là où il t'est arrivé un malheur en faisant exactement ça.
Ah, OK.
Que t'avais ton site, le site web était sur Bucket S3 qui était public et qui s'est retrouvé à être fermé par erreur.
Faut bien gérer les exceptions, par contre, pour le coup, d'où le tag. Faut pas. Et ça, c'est le problème d'ailleurs des contrôles de réaction automatique. Pourquoi on en a toujours moins que des contrôles de prévention? C'est que, c'est pareil pour les préventions, c'est que il faut avoir des cas d'usage qui soient vraiment béton. Hein. Évidemment, il faut que ça soit, faut qu'on puisse gérer les exceptions dans ce cas d'usage. C'est pas du un coup c'est oui, un coup c'est non, parce que ça c'est la réaction humaine, c'est pas la réaction automatisée. La réaction automatisée, c'est 0 ou 1. Donc, c'est là où on va aller vraiment justement utiliser les tags. C'est pour ça que je parlais de tags. Ça a été ça mon feedback, mon auto-apprentissage. Je me dis, ok, bon, finalement, je vais mettre un tag sur mon bucket pour décider de réagir ou pas. Le tag permet justement d'introduire une variable dans la réaction où je vais permettre au créateur de l'objet de spécifier si c'est une exception ou pas. Donc, ça veut dire que vous pouvez éventuellement avoir une mauvaise configuration volontaire. Quelqu'un qui volontairement, par intention de nuire, va exposer un bucket. Et là, voilà, vous êtes dans un autre scénario. Là, vous n'êtes plus dans le scénario le 80-20 qui est plus une erreur. Sans le vouloir, j'expose par mes compréhensions. Ce genre de scénario de mécompréhension, en tout cas avec l'absence d'un tag qui spécifie « oui, c'est vraiment public », il va être couvert, il va être pris en charge par la réaction.
Très intéressant. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas couvert que t'aimerais discuter?
Non, je pense que ça fait bien le tour, effectivement. L'info nuagique, c'est clairement, de toute façon, notre... une tendance lourde et puis je crois sincèrement que ça va nous concerner tous à plus ou moins un niveau plus ou moins important. Donc moi j'incite juste tout le monde à s'intéresser à l'actualité de sécurité info nuagique, s'intéresser à l'automatisation, au concept des landing zones, c'est vraiment des choses qui vont vous concerner forcément, donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions. C'est ça qui je trouve est passionnant dans l'info nuagique, c'est le nombre de cas d'usage qu'on peut en tant que défenseur, en tant que blue team, là, qu'on peut mettre en place. C'est incroyable. Je veux dire, là, on a un terrain de jeu. Je trouve qu'on est comme un peu libéré. On libère un peu la parole. Là, je me fais prophète, là, un peu. Là. Mais sérieusement, en tant que blue team, on vient s'ouvrir à un océan de possibilités de cas de détection, de contrôle de détection, de prévention, de réaction automatisée, qui est génial parce qu'on ne l'a pas, cette possibilité sur site, à part acheter une solution coûteuse, parfois, qui peut nous aider. Mais dans l'info nuagique, un petit morceau de script, là, et vous pouvez faire des choses incroyables. Donc, c'est plutôt le fun.
Oui, effectivement, on a des accès à des outils qui sont franchement plaisants. Je te remercie énormément pour ta générosité. C'est toujours très plaisant de t'entendre en conférence, que tu fasses un retour sur ça. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup.
Et merci beaucoup. À bientôt.